et vous écoutez France Culture. Tous ces films me plaisent, quel que soit leur genre ou leurs époques. Ils sont si divers que si on les posait les uns à côté des autres, ils pourraient résumer d'une certaine façon l'histoire du cinéma. Kōji Kurosawa à propos de Richard Fleischer. Et pas d'erreur, c'est le vrai genre. Mauvais genre, essentiellement consacré ce soir à un de nos cinéastes fétiches, l'américain Richard Fleischer. Fleischer, dont sont sortis récemment en DVD et Blu-ray, parmi le plus haut fait d'armes cinématographiques, des péplums comme Barabbas, thriller horrifique comme Terreur aveugle ou L'étrangleur de Rillington Place, polar urbain comme Les flics ne dorment pas la nuit, ou encore Mister Majestic, Fleischer, le grand mix, c'est ce soir dans Mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui pèlerine ce soir sur un de ses sites cinématographiques les plus appréciés et les plus forts, la filmographie de Richard Fleischer, et ce suite à une actualité vidéographique extrêmement intense. J'aurai le plaisir d'en parler bien évidemment avec Philippe Rouillet, comment
bonsoir.
Va-t-il ?
Bonsoir. Très bien, il s'agit de Fleischer, donc là on est tous au rendez-vous.
La dernière fois, bon, on va en parler un peu plus en détail, c'était il y a pas mal d'années avec Jean-Baptiste Torré, on avait fait honneur à Montparnasse Édition.
Oui, parce qu'il y avait une très très belle sortie, parce que Montparnasse à l'époque avait toute la RKO, tout le catalogue RKO, et Fleischer, ses premiers faits d'armes, c'est RKO. Et donc il y avait un magnifique coffret dont le point d'orgue était l'énigme du Chicago Express. Donc ce soir, on ne parle pas du tout de cette période introductive à la RKO, mais où déjà il a ses armes de metteur en scène. C'est ça qui est assez formidable, c'est que tout de suite il est armé et fait d'excellents films.
On va parler de la période donc ultérieure. Bonsoir Jean-Pierre Dionnet.
Bonsoir.
Comment va-t-il ?
Il va bien. Il voulait dire que Fleischer, ça commence avant, mais on ne le sait pas, parce qu'on n'a jamais vu les Fleischer.
Famille Fleischer, ça commence nettement avant.
Oui, non, parce qu'il a commencé par les Fleischer Flashback, qui étaient en fin de compte des remontages de films muets. Et après, il a fait un truc qu'on n'a jamais revu, avec Theodore Geisel, alias Dr. Seuss, qui était un documentaire sur la manière dont les Japonais s'étaient préparés à la guerre psychologiquement. Et ça, la copie a disparu.
Pourtant, c'est l'Oscar du meilleur documentaire.
Oui, mais il a disparu totalement.
Le Design for Death.
Ouais, ouais. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Jean-Pierre, puisque le Dr. Seuss, je rappelle une fois de plus que ses œuvres superbement traduites et présentées sont éditées au Nouvel Attila. Donc, pour découvrir cette légende vivante du livre pour enfants américain, Dr. Seuss au Nouvel Attila.
Oui, le monsieur des 5 000 doigts des docteurs T, si
absolument,
vous voulez savoir.
Là aussi.
De la chocolaterie.
Voilà. Charlie la chocolaterie, oui.
Bonsoir Fausto Fasulo.
Bonsoir François.
Alors, quelques mots du PIF, Paris International Fantastic Film Festival.
Je ne pouvais espérer meilleur accent déjà.
Voilà, ça c'est mon autrichien est impeccable.
C'était une édition qui était particulièrement satisfaisante et c'est vrai qu'on a élu nos quartiers dans un cinéma qui, je pense, est vraiment le plus beau de Paris, à savoir le Max Linder. C'était les conditions idéales pour projeter des films d'aujourd'hui et d'hier. C'était les conditions idéales pour accueillir Dario Argento, qui était particulièrement heureux d'être là pour présenter une copie intégrale d'opéra.
C'était très émouvant, hein. J'avais signalé aux auditeurs de Mauvais genre la veille cette. Et il est resté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est resté toute la projection. Et après, il n'y avait pas une séance de questions, mais il est revenu faire un coucou pour remercier de l'accueil. Enfin, il y avait un côté...
Tout à fait. Bah, je peux vous faire pénétrer quelques secondes dans les arcanes. En fait, il ne voulait pas faire de questions-réponses, en vrai. Il était beaucoup plus à même et OK pour faire une très longue présentation, mais il n'est pas très à l'aise, en fait, au jeu du débat. Et en revanche, il a insisté pour aller revoir, en fait, le public à la fin de la projection pour le saluer, tellement il était heureux. Et c'est quelqu'un qui est très touché, en fait, par le regard des jeunes générations sur son œuvre. Donc, il est toujours très content, en fait, de voir des jeunes dans les salles qui découvrent ou redécouvre son cinéma, et je pense que c'est quelque chose qui l'émeut profondément. Ouais.
Elle témoigne de ce moment privilégié, d'ailleurs le reportage photo qu'a fait Sixtine Audebert et qui est visible sur la page réseau social.
Toujours ultra active.
De Mauvais genre, France Culture. Merci messieurs, donc vous êtes avec nous ce soir.
Vous pouvez dire que c'est Grave qui a gagné le film de
Julien. Ah oui, voilà.
C'est grave
d'oublier de le signaler. Oui,
tout à fait.
Sur la mi-mars.
Alors, on fera une émission sur Grave.
Je suis
tenté par faire une émission sur ce film que je n'ai pas vu, hélas, mais dont le pitch me semble extrêmement
excitant. Oui, et puis il a eu quand même
excitant.
Le Méliès d'or, hein, 22, voilà. 22 festivals de films fantastiques européens se sont réunis pour lui donner leur prix.
Il est réalisé par
Julia Ducournau, premier long métrage
si
français.
Elle nous écoute,
c'est vraiment un événement.
On l'invite. À bientôt avec Grave et Julia Ducournau. Mais en attendant, eh bien, que Julia Ducournau arrive dans le studio, quelqu'un y est déjà là, bien évidemment, c'est Céline Duchesnay, puisque l'heure nous est venue, pardon, de l'encyclopédie pratique des mauvais genres.
À la lettre.
À la lettre ce soir, ma chère Céline.
Eh bien, à la lettre G comme Gambier, Séverine Gambier.
Ouf. Alors, mon atelier, c'est un vaste bordel. Il y a des cartons partout, avec des tas de petits morceaux d'assiettes, des restes d'assiettes que j'ai cassées, des assiettes choyées qui ne sont pas encore cassées, que j'accumule. Il y a beaucoup de gens qui me donnent des assiettes, tous les gens autour de moi maintenant chinent pour moi. Et puis autrement, moi, c'est les assiettes que j'ai choisies très très soigneusement, que j'achète sur Internet la plupart du temps. Le choix des assiettes, pour moi, c'est très 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 important dans mon travail, puisque je peux en choisir pour un petit mot écrit, pour le tour de l'assiette qu'on appelle un marli, avec des motifs géométriques, des fleurs, des tas de petits décors, et puis les personnages centraux, bien évidemment.
Et ça se casse comment, une assiette? Ça se jette par terre, en petits morceaux?
Non, ça se jette pas du tout par terre.
Dans votre atelier, il y a beaucoup de pinces, quand même. Ça peut
oui,
nous mettre sur la voie.
Oui, il y a beaucoup de pinces, Donc j'utilise des pinces très très soigneusement. Et je sais ce que je veux obtenir. Je sais quelle petite partie je veux utiliser, si c'est juste une fleur. Mais quand j'utilise des personnages, je fais très attention aux cassures pour qu'il y ait des lignes, en fait, pour créer des mouvements.
Séverine Gambier a commencé la mosaïque il y a une vingtaine d'années dans sa salle de bain. En voulant boucher un trou, elle s'est retrouvée petit à petit à construire un mur de mosaïque. Et depuis, elle ne s'arrête plus, même si elle s'étonne encore, dit-elle, d'éprouver une telle passion pour ce matériau froid et immobile qu'est la porcelaine, alors qu'elle aime les choses qui bougent, les images qui défilent, le mouvement, le cinéma. Mais que cela ne tienne, on trouve et on retrouve le mouvement dans ces mosaïques à travers les lignes, les cassures, des ruptures et des fragments, des fêlures qui, une fois assemblées, donnent avoir un tout, une vision proche de l'harmonie.
Ce travail est étrange parce que, en fait, je ne sais jamais si j'unis les choses, si je les relis ou si je les sépare. Je me pose la question tout le temps. Est-ce que je casse la figure aux gens quand j'utilise leur portrait? Est-ce que je les reconsolide? C'est des alchimies un peu étranges. Quand je dis, je ne sais pas si je leur casse la figure ou pas, c'est puisque j'utilise dans cette dernière série sur laquelle je travaille des hommes politiques, des hommes de pouvoir, on va dire, du 19e siècle. C'est leur portrait que j'utilise. C'est à eux que je casse la figure. Et quand je dis je sais pas si je les reconsolide ou si je leur casse la gueule, je crois qu'au fond de moi, je sais très bien que je leur casse la gueule. Puisque le but de cette série, enfin le but, l'envie de faire et l'envie de montrer quelque chose de moi, c'est justement de positionner ces hommes de pouvoir avec autour le chaos du monde. Même si j'utilise des fleurs, je les utilise en fait moi. Après, les gens peuvent avoir d'autres perceptions, bien heureusement. J'utilise ces fleurs de façon assez violente en fait, beaucoup plus violente que ce qu'on peut voir au prime abord. C'est mon souci avec le pouvoir. Je suis très très enragée en fait, et de plus en plus. Et je prends grand plaisir à faire ces portraits cassés et à montrer ce chaos, même si j'essaie d'y mettre un peu d'humour, un peu de poésie, ce que permet la mosaïque.
Qui sont-ils ?
C'est les grands de ce monde du 19e siècle, enfin, fait par des faïenceries françaises. Donc, on retrouve tous les présidents de la Troisième République, hein, et Nicolas II, le tsar de Russie, et sa tendre épouse, Alexandra, qui est la seule femme parce qu'elle était femme de tsar, mais il n'y avait pas de femme politique représentée dans ces assiettes du 19e siècle. Je pense qu'il y avait des femmes extraordinaires, mais elles ne sont pas du tout représentées. Et c'est vraiment les politiques, c'est pas des gens qui ont été écrivains avec un rôle politique, je sais pas, comme George Sand. On trouve Victor Hugo aussi, qui est le seul homme qui me plaît largement plus que ces présidents, qui sont pour beaucoup devenus assez inconnus par les gens des jeunes générations. Il y a Gambetta, mais le pauvre est assez mal représenté. Il a une énorme barbe et il n'est pas très beau sur ses assiettes.
Séverine Gambier est représentée, elle, par la galerie Béatrice Soulier, rue Guénégaud à Paris. Et en ce moment, vous pouvez retrouver les fascinantes mosaïques de Séverine Gambier dans le numéro 27 de la revue Elle. Une des mosaïques de l'artiste, intitulée « Ni les fées, ni les anges », fait même la couverture de la revue avec l'impératrice de Russie, Alexandra. Séverine Gambier est aussi présente dans le hors-série « A Four Degrees Art » qui donne la parole à une centaine d'artistes internationaux qui s'engagent pour les droits de la Terre.
Merci Céline pour cette entrée. Donc Séverine Gambier de l'Encyclopédie pratique des mauvais genres. Une réaction, messieurs, sur la mosaïque, monsieur Jean-Pierre. Vous êtes un amateur de mosaïque.
Oui, enfin évidemment, je pense à la maison Picassiette, voilà, dans la Drôme. Et le fait que dans la maison Picassiette, c'était plus facile puisqu'il y avait des gros joints. Tandis que là, on voit que c'est un vrai puzzle et c'est pas évident d'arriver à rassembler comme ça des bouts éparses de mosaïque et d'arriver à en faire des tableaux. Moi, je suis un peu admiratif parce que c'est un travail de très très longue haleine et je voudrais juste savoir si on casse ses assiettes ou est-ce qu'on lui envoie. Parce qu'on ne l'a pas dit.
Les deux, en fait. Voilà. Elle les chine et puis on lui envoie. Enfin, c'est un grand réseau de solidarité autour de l'assiette en porcelaine du 19e siècle.
Voilà, auditrice, auditeur, vous savez désormais ce que vous avez à faire si par malheur, vous cassez vos assiettes pendant le réveillon et même pendant toute l'année. En tout cas, merci. Et puis à regarder l'avant-dernier numéro,
voilà, numéro 27.
De la revue Elle, toujours aussi saisissant. Mais maintenant, bah, écoutez, on va changer d'époque, on va changer de type politique, on va quitter les présidents de la République, les tsars de toutes les Russies, pour se diriger via Richard Fleischer vers les empereurs romains. Miller et Steve Schill, choisi par Laurent Polleret pour notre playlist de mauvais gens ce soir. Ça a l'air de vous plaire, monsieur Jean-Pierre.
Ben, ça me plaît beaucoup, parce que je ne sais pas s'ils connaissent, mais ça me fait penser, en plus moderne, à l'arrangement qu'avait fait Otis Redding,
oui.
Qui avait déjà un peu défait le Noël blanc.
Voilà, bah dans l'Otis Redding, on va se rapprocher de Richard Fleischer. Alors, je redonne effectivement les parutions récentes chez Sidonis Barabbas, chez Carlotta, la trilogie foudroyante, Terreur aveugle, l'étrangleur de Rillington Place et Les flics ne dorment pas la nuit, et chez Wildside, Mister Majestic. Alors, monsieur Philippe Rouillet, c'est quand même étonnant, c'est que ce sont des films puissants de Fleischer, ça fait partie du meilleur de sa filmographie, mais c'est chez trois fournisseurs différents. Ce qui prouve, c'est pas la lubie d'un seul, mais c'est un peu un phénomène partagé.
Bah, heureusement, parce qu'en fait, il faut tout un travail d'équipe pour essayer de nous amener toute la filmographie de Richard Fleischer. Parce que nous
autres, qu'il manquerait encore.
Ah, bah, il en manque.
Toujours se plaindre.
Il en manque encore quand même des. Il manque quand même des choses importantes.
Bah, il y a Mandigo, celui... Mandigo.
Mandigo, bah,
ouais. Alors, Mandigo,
alors, Mandigo, qui est peut-être son dernier grand film en 1975, qui n'existe qu'en zone 1 dans une copie que j'ai, mais qui est amputée d'une heure. Donc, ouais. C'est-à-dire que le problème de Mandigo, c'est qu'il y a carrément un travail vraiment de restauration du métrage à faire. C'est-à-dire que le matériau disponible actuellement d'un point de vue monde est un matériau incomplet, parce que l'histoire du film fait qu'il a été tout de suite très mal compris, accusé d'être raciste, fasciste, etc. Donc le film a été très, très abîmé. J'aimerais bien qu'on ait un Blu-ray de 20 milieux sous les mers.
On a oui, des, ça, c'est, on a, on veut rien contre non plus.
Ah, on a,
c'est
on a,
étonnant.
On a, DVD, moi.
On a des DVD, mais quand même, un Blu-ray, ce serait quand même pas de trop. Et il manque encore un certain nombre de classiques, bah, que ce soit Bandido Caballero, ou quand même, on aimerait bien avoir quelque chose de pas mal. Le temps de la colère vient d'être édité. Duel dans la boue aussi, mais quand même, il en reste.
Et puis alors, je crois que le Che qu'on a eu est incomplet.
Ouais.
Voilà. C'est pas son chef-d'œuvre, mais
c'est peut-être son moins bon film.
Donc il y a encore du travail à faire sur Richard Fleischer, mais on va réjouissons-nous quand même du travail fait.
Oui,
on va donc plus prendre un air un peu chochot.
Non mais Carlotta continue, parce qu'il y avait eu Les Assassins dans la ville, qui est le meilleur film
dont on avait
parlé aussi dans une autre émission, qui est vraiment Les Assassins dans la ville, qui est vraiment l'utilisation du scope maximum, formidable. Voilà, parce que en fait, ce qu'il faut dire de ce réalisateur, c'est qu'il a été chez, on parlait d'RKO tout à l'heure, après il a été chez Fox, il a été chez pas mal de producteurs, et il a jamais été considéré vraiment comme un auteur.
Alors c'est un fils d'archevêque, puisque c'est le fils de Max Fleischer.
Voilà.
Et Val de Disney,
de Dave Fleischer.
Voilà. Donc le créateur de Betty Boop et de Popeye, il a fait tous les métiers dans le cadre du cinéma avant de devenir réalisateur, et il commence sa carrière en 1946 et il la terminera en 1989. C'est quand même une carrière extrêmement remplie. Dans tous les genres.
Dans tous les genres, c'est pour ça que les gens disaient en France, mais c'est pas possible de dire que celui qui a fait Bandido Caballero et Soleil Vert, c'est un auteur. Or, vas-y. Justement, je pense que ce soir, avec 5 films qui sont très différents de la période tardive, on va pouvoir peut-être faire saillir des lignes de force, y compris thématiques. Alors après, comme c'est, vous l'avez dit, il a fait tous les métiers, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la technique et qui a une approche presque instinctive, c'est-à-dire que dès le début, ses films en scope, il y a une utilisation formidable de l'écran large. Non seulement il a l'idée d'utiliser tout l'espace, y compris la profondeur de champ, mais il a aussi des idées marrantes, quoi. C'est pas simplement on met des choses et il est constamment à tenter quelque chose. Barabbas, il s'aperçoit que dans le calendrier de tournage, il y a une éclipse. Eh ben, il se dit, c'est parfait, on doit tourner la crucifixion du Christ, on change le plan de travail pour la faire au moment de l'éclipse. Et là, ça nous évite des effets spéciaux, et tout d'un coup, les gens disent, c'est affreux, voilà, les ténèbres, etc. Voilà. Et ça, pour moi, cette anecdote, elle est révélatrice de ce qu'est Fleischer. C'est-à-dire que c'est un type qui a une très grande connaissance et c'est très ludique et qui a cet esprit d'initiative qui va, tac, comme ça, rebondir et donner un peps fou à son film. Ça coûte rien d'avoir changé le plan et de profiter de l'ellipse.
De l'éclipse.
Mais quand on regarde le film, tout à coup, la scène a une gueule incroyable.
On va en parler, donc c'est dans Barabbas. Jean-Pierre Dionnet.
Moi, je crois que la fameuse notion d'auteur qu'on a, on va dire, Frisland, la culpabilité, etc., etc., je pense que Fleischer, il y a un truc obsessionnel chez lui qui revient chez d'autres, mais chez lui, ça revient toujours, c'est que le personnage principal prend un chemin, il hésite toujours en route et il reprend plus fort à la fin. Et il y a toujours un moment où il s'écroule, où il hésite et où il repart. Mais c'est obsessionnel. Tous les Fleischer fonctionnent comme ça.
Et son personnage principal n'est jamais un personnage extraordinaire. C'est toujours un homme ordinaire. Quitte à ce qu'il y a à côté, je veux dire, c'est pas Jésus, c'est Barabbas, quoi. Il y a toujours un décalage, quoi.
Oui, c'est un personnage secondaire. Son héros est toujours un personnage secondaire et sa technique n'est pas secondaire, au contraire. Elle est exactement ce qui doit coller à chaque film, c'est-à-dire qu'il peut aller d'une habileté extraordinaire avec du split screen, des effets incroyables et tout, jusqu'à une rigueur totale et absolue. C'est-à-dire qu'il utilise les armes qui correspondent au film. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul autre metteur en scène qui a eu cette diversité-là et qui a refusé le statut d'auteur, c'est Robert Wise.
On est d'accord.
C'est les deux à qui on refusé.
Et les deux ont commencé chez RKO.
Voilà, les deux on leur a refusé le statut d'auteur, alors en que France, très ouais. évidemment ils en sont, sachant que pour moi Wise a fait ce que proposera plus tard Kubrick, c'est-à-dire l'ultimate film de braquage, l'ultimate comédie musicale moderne, l'ultimate comédie musicale sucrée, l'ultimate maison de hantise. Alors vous me direz Shining après The Haunting, mais Wise l'a fait. Et sans l'annoncer. Et je pense que ce sont les deux grands sous-estimés.
Mais la différence, c'est que Kubrick avait ce côté mégalomane de mettre en scène lui-même et d'aller jusqu'à modifier un peu le genre. C'est-à-dire voilà. que, alors que les autres,
les
Wise,
autres, ils le respectent.
Comme Fleischer, restent dans le genre.
Mais ils font des,
encore
font des,
qu'on verra ouais. avec Barabbas,
voilà.
c'est autre chose.
Mais je crois que, en plus, quand ils s'attaquent à la science-fiction, Fleischer comme Wise ont la force de ceux qui ne viennent pas du milieu de la science-fiction. Et ils donnent une réalité qu'il n'y a jamais ailleurs.
Non, moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Je vais ajouter une petite couche à ce que disait Philippe concernant justement la reconnaissance critique assez tardive et laborieuse en fait de Richard Fleischer. J'ai la sensation finalement que c'est un cinéaste qui est plus apprécié par ses pairs que par les cinéphiles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cinéastes qui le citent comme un modèle, comme un exemple, comme c'est le cas de Kiyoshi Kurosawa, ouais, comme c'est le cas aussi dans tous les bonus en fait qui sont sur les Blu-ray de chez Carlotta. Et on sent en fait qu'il y a plein de metteurs en scène qui sont admiratifs de sa capacité justement à embrasser les genres, à déprogrammer parfois les attentes du spectateur. Et c'est assez passionnant de voir quelqu'un comme Fabrice Duvel, ce qui dit « mais j'aurais adoré, moi, passer d'un genre à l'autre, comme ça, d'explorer des univers, etc. » Et j'ai la sensation que là, aujourd'hui, effectivement, on a quand même accès à une bonne partie de la filmographie de Richard Fleischer. Donc on arrive à prendre le recul et à considérer que c'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire du cinéma. Mais j'ai la sensation avant que finalement, les premiers à avoir apprécié le travail de Fleischer, c'était vraiment ses pairs.
Mais c'est vrai qu'on passage d'un univers à l'autre, dans ce titre, Philippe Rouillet, c'est absolument fascinant dans la filmographie de Fleischer. Entre le 10 Rillington Place qui raconte l'histoire d'un serial killer miteux dans le Londres d'après-guerre jusqu'au Voyage fantastique ou Soleil vert, en passant par les films historiques et tout le genre, c'est hallucinant le nombre d'univers traversés.
Oui, et puis il passe de l'un à l'autre. Je veux dire, on va parler de Barabbas, juste après, il fait le Voyage fantastique, et vous savez, ce sous-marin dans le corps humain. Donc, je veux dire, on est dans une autre échelle, dans un autre cinéma, et il passe de l'un à l'autre avec une aisance formidable. Et pour compléter ce que disait Fausto, en fait, tout le monde a vu beaucoup de films de Richard Fleischer, même des gens pas cinéphiles du tout, mais ils savent pas que c'est des films de Richard Fleischer. Tout le monde a vu 20 milieux sous les mers, Soleil vert, voir l'extravagant Docteur Dolittle, qui est pas son meilleur film. Mais voilà, enfin, je veux dire, il y a des tas de films de Richard Fleischer et c'est ça qui est formidable, cette édition. Trois éditeurs qui se réunissent, enfin, ils se réunissent pas, mais qui joignent leurs efforts. On a 5 Fleischer ce soir, sur la table. C'est formidable.
Cap donc sur le premier d'entre eux qui paraît chez Sidonis dans la collection Grand Spectacle et s'en est un Barabbas.
Witnessing an actual eclipse of the sun. On the day it was filmed, there was a great darkness over the land. On just such a day, over 1900 years ago, an obscure carpenter of Galilee gave up his last breath in exchange for the life of this man. His name, Barabbas. A man of violence, a common thief, an assassin.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
I should have been killed instead of him, is that it? You think I ought to be dead?
Barabbas, hear what I say. He came from God.
That's all my worry. God can look after his own.
He came from God, la trailer donc de Barabbas de Richard Fleischer, 1961.
Oui, exactement. Donc
sorti en France en 1964.
Voilà. Produit par Dino de Laurentiis. produit par d'après un roman de scandinave, un prix Nobel. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous écoutez la musique là qu'on vient d'entendre du film, on a l'impression qu'on est vraiment dans le cycle des films bibliques. Je veux dire, 59, c'était Ben-Hur, les 10 commandements, la deuxième version de 2000. Or, quand on regarde le film fonctionne complètement différemment. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que on croit qu'on est dans un cinéma de genre, et effectivement, il y a la figure du Christ, il y a la figure de la foi, mais Barabbas est l'anti-héros. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Pierre. C'est-à-dire que non seulement c'est quelqu'un qui est beaucoup moins évidemment rayonnant que le Christ, mais c'est aussi quelqu'un qui ne comprend rien à sa propre histoire.
C'est ça la tragédie de ce personnage.
Et c'est ça qui est formidable. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, c'est très beau. On commence avec Pilate, la foule, et donc on va libérer Barabbas à l'inverse de Jésus. Et à ce moment-là, Barabbas ignore tout de ce qui se passe, il est dans sa cellule et il y a tout d'un coup une lumière qui vient taper et en quelque sorte le réveiller, et en sursaut, il sort de l'obscurité. Et en fait, ce rayon de lumière va l'accompagner pendant tout le film. C'est-à-dire que jamais il est dans la lumière, mais il y a toujours ce rayon de lumière qui est à côté de lui ou qui lui tape dans l'œil, si bien qu'il ne voit rien. Quand il sort de prison, il y a le Christ qui est là, et j'allais dire le Christ en majesté, qui l'aveugle littéralement, et lui se met en colère alors qu'on le libère, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Je fais une parenthèse pour vous signaler que le Christ est représenté là tel qu'il était présenté originellement, avec des cheveux bruns et non des cheveux blonds, ouais. comme ça a été fait de manière sulpicienne à partir déjà en 1960, ça se fait déjà comme ça. Là, c'est les toutes premières représentations du Christ cheveux bruns. Il y a même certains plans de flagellation qui évoquent Caravage.
Absolument, c'est très très net.
C'est
la même réaction.
Il y a ce travail qui va faire, y compris sur l'imagerie. Mais je reviens sur mon idée de la lumière, c'est-à-dire que pendant tout le film, Barabbas est dans l'obscurité et il y a la lumière qui est à côté, qui l'accompagne et ce qu'il raconte, c'est qu'il comprend pas, c'est-à-dire qu'il petit à petit il va être traumatisé du fait que l'autre est mort pour lui en quelque sorte. Jésus est littéralement mort pour lui, et constamment dans le film, le film est construit sur une suite de tableaux de péripéties. Donc il va se retrouver emprisonné, il va se retrouver dans les mines de soufre.
Alors ça, c'est le grand moment du film,
qui est tourné sur les bases de l'Etna. L'autre grand moment du film, c'est quand il se retrouve gladiateur dans l'arène, et à chaque fois il croise le chemin des chrétiens. À chaque fois, lui refuse la foi, etc. Et il s'en sort. Et c'est tous ses amis chrétiens, comme Vittorio Gassman, qui va mourir, pas à sa place, mais à ses côtés, jusqu'à cette fin où finalement, il se décide à devenir chrétien sans trop comprendre ce que ça veut dire. Et il se retrouve crucifié pour une religion qu'il n'a pas vraiment épousée et où il ne comprend pas. Et où il a cette phrase, qui est la dernière du film, c'est « Cette fois-ci, j'accepte l'obscurité ». Et c'est-à-dire que le film raconte la courbe d'un personnage qui va non pas vers la lumière, mais qui va accepter l'obscurité, qui va accepter même son obscurantisme. Jean-Pierre. Et ça, c'est tout à fait poignant.
Oui, et ce non-auteur, quand il est en prison ou dans les mines de soufre, c'est Piranèse aussi. En même temps, nous, comme on connaît l'histoire, on sait qu'il est en train de vivre cette mort du Christ et cette pseudo-résurrection, mais qu'il ne le sait pas. Donc, là aussi, il y a l'hésitation, parce qu'il a plusieurs occasions de comprendre son destin, et c'est un des films où il le refuse le plus, jusqu'à, comme le disait notre ami Philippe, la fin. Il faut vraiment qu'il arrive à la dernière ligne pour dire « bon, ça y est, j'ai compris ». Mais on est dans une empathie qui est le contraire du roi des rois, que j'aime beaucoup, oui, qui est totalement du pubis de Chavannes, ce qui est donc tout à fait recommandable. Mais là, on est dans une vision vraiment religieuse, vraiment théologique. Moi, je penserais presque que on est du côté du Golgotha, du vivier, plutôt que des péplums. Et je pense que quand Tavernier dit c'est le meilleur péplum, non, pour moi, c'est pas un péplum. Un péplum, comme disait Freda, on passe tous les jours devant les colonnes romaines en scooter. Les Italiens avaient une espèce de désinvolture envers leur passé. Les Américains avaient un respect, mais un respect à la Cécile B2000, extrêmement conventionnel.
Théologique,
en général. Voilà, une
morale.
Espèce de vision morale et un peu raide.
Un peu puritaine.
Le Fleischer, il va dans la chair. Il y a de la violence, il y a du sang, et c'est vrai qu'il y a des coups portés. On est beaucoup plus proche de la Bible que de ces adaptations light, qui seront le cas la plupart des cas.
Fausto ?
Oui, puis accepter l'obscurité, c'est vraiment le credo en fait, de la filmographie et des personnages qui traversent les univers de Richard Fleischer. C'est tous les personnages qu'on va évoquer ce soir dans les films qui nous sont proposés acceptent tous l'obscurité d'une manière ou d'une autre et sont obligés de composer avec, en fait.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur l'écran large et son choix, à chaque fois, c'est d'aborder avec la figure du demi-cercle. C'est-à-dire que soit les décors sont des demi-cercles comme les arènes, etc., soit, sinon, c'est dans les mines de soufre, c'est lui, sa caméra qui procède comme ça, avec une espèce de mouvement ovoïde autour, et qui crée, qui va enfermer le personnage dans une espèce de circularité qu'est son destin. Ça, c'est un exemple très typique. Cette figure de caméra se retrouve pas dans les autres films dont on va parler ce soir. C'est que, à chaque fois, il adapte son style à l'histoire qu'il veut raconter.
Alors, la descente dans les obscurités à la fois physique et mentale, eh bien, on va la retrouver au premier plan dans le film suivant, L'étrangleur de Rillington Place. Voilà, l'étrangleur de Rillington Place, le personnage principal, celui de l'étrangleur, est en train d'aménager une séance de pseudo-avortement pour une des locataires de l'immeuble où il réside. Mais en définitive, tout cela n'est qu'une comédie puisqu'elle lui sert à remettre en place la scène de meurtre qu'il avait créée 30 ans avant, à la fin de la guerre, Richard Attenborough. That needed urgent surgery. It's a chemically compounded filter, you see. The liquid takes out the carbon monoxide, or CO2, as we call it. Voilà un film de 1971, absolument hallucinant par sa noirceur, par son horreur, on peut le dire. De quoi s'agit-il ? Eh bien, le film est basé sur une histoire réelle. Nous sommes au tout début, j'exagère un peu sur les durées, c'est simplement 5 ou 6 ans. Nous sommes au tout début à Londres, en 1944, dans un quartier ultra populaire. C'est le Londres de la crise économique, le Londres qui se remet des bombardements du Blitz.
C'est le Blitz, on est encore sous le Blitz. Hein.
Voilà, c'est un Londres martyrisé, pauvre, et à l'intérieur de cet univers, eh bien, réside un personnage qui est joué par Richard Attenborough, qui est un petit homme rond, rose, à lunettes, qui est, paraît-il, policier, mais on sent bien que sa police n'est qu'une police de surface. Et puis cet homme est un serial killer, c'est-à-dire un homme qui attire des femmes malades chez lui pour leur faire subir un pseudo-traitement médical pour les guérir de telle ou telle souffrance.
Là, c'est la bronchite au départ.
Voilà, la bronchite, mais la migraine est également en magasin, et puis tout ce qui est, même les problèmes de grossesse sauvage le sont également. Et en définitive, il les attire dans un petit Cagibi. Dans ce Cagibi, il y a un transat, mais que ce soit un transat de plage avec une jolie toile, bien c'est une sorte de transat avec des nœuds. On a l'impression d'un piège. Quand on se couche dans ce transat, eh bien ça va se refermer, ça se referme en effet sur vous. Et là, avec une espèce de machinerie qu'il a lui-même conçue, qui a un côté totalement étrange, avec un masque en carton, un double tuyau, une espèce de pot dans lequel il y a une mixture blanche plus l'usage du gaz d'éclairage, il arrive évidemment à faire évanouir ses patientes, entre guillemets, et à la suite desquelles il les viole et il les étrangle. Donc on a un cas de
serial killer. Dans son jardin.
Et il les enterre ensuite dans son jardin. Et on commence avec un meurtre. Et on voit que ça n'est pas le premier, puisque alors qu'il creuse la fosse, eh bien, il y a déjà un pied avec un bas, une chaussure qui apparaît. Et donc on se doute que l'homme a l'habitude de la chose et qu'il n'est pas à son coup d'essai. Et ensuite, eh bien, le film va s'installer dans cet immeuble du 10 Wellington Place, dans le quotidien de cet individu. Et puis le cœur du film, c'est la destruction d'un jeune couple, John Hurt, j'imagine, un de ses tout premiers rôles, qui est le mari, un personnage un peu effaré, qui est chauffeur routier dans la journée, qui parle fort dans les pubs la nuit, qui a une ravissante épouse blonde, mais l'épouse blonde, elle a le malheur de plaire à l'homme qui est le concierge tueur, et elle sera donc ensuite assassinée. C'est ce qu'on vient d'entendre, puisqu'elle est enceinte, elle ne veut pas d'un deuxième enfant, et lui fait croire qu'il va la débarrasser de cet état gênant, et en définitive, il l'assassine, et après, toute une machinerie se met en place, le mari est condamné à sa place, il est pendu, l'enfant est également assassiné, je n'en dis pas plus. C'est un film d'une noirceur absolue, à la fois dans les décors, puisqu'on est dans une espèce d'immeuble miteux, moisi, confiné, où le noir est permanent.
Et le gris, quand c'est pas noir, c'est gris. Et...
On va entre le vert, une espèce de vert de moisissure, le gris des portes et des peintures qui sont visiblement défaites.
Après la guerre, ça ne bouge pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on croit qu'on est toujours sous blitz. Enfin, il y a toujours cette espèce de grisaille écrasante.
Et donc, c'est un film de 71 qui met en scène, je dirais, un cas pathologique, mais d'une façon qui, j'imagine, est un peu étonnante pour l'époque. C'est-à-dire que c'est quasiment un film historique, puisqu'il y a une reconstitution extrêmement pointilleuse de ce qu'est la société populaire, le Londres populaire des années 40 et 50. Et puis, il y a la descente aux enfers d'un cas psychologique avec une volonté de ne rien laisser au hasard, c'est-à-dire de l'avoir toujours dans le cadre, à l'intérieur, toujours dans un décor qui l'écrabouille comme une espèce d'étau. Et on voit le personnage, là, d'une certaine façon, sévir et presque s'autodétruire.
Oui, et puis être finalement à son aise dans cette espèce d'espace. La composition de Richard Attenborough est absolument extraordinaire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il est complètement intégré socialement. Il a une femme qui n'imagine pas son activité et c'est quand l'occasion se présente qu'il cède à ses pulsions. Et la mise en scène documentaire est très intéressante parce que quand Fleischer fait le film, c'est aussi un puissant réquisitoire contre la peine de mort. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la scène d'exécution est révélatrice, je trouve, de ce qu'est le cinéma de Fleischer. C'est-à-dire que on se dit bon, le moment où le faux coupable va être pendu, ça va être un grand moment de cinéma. C'est un grand moment de cinéma, mais sauf que l'idée du grand moment de cinéma, c'est que ça arrive comme ça. Toc, on va le chercher et en moins d'une minute chrono, c'est plié. C'est-à-dire qu'au lieu de déplier l'art cinématographique pour faire une grande scène, l'art cinématographique va naître de sa fulgurance. Et cette minute va complètement irradier sur la suite du film pour le spectateur. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après totalement irrémédiable. Et c'est ça aussi faire du cinéma, c'est-à-dire réussir à utiliser moyens pour proposer quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. De cette manière-là.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, moi, ce qui me fascine, et je pense que Hitchcock va en tirer la leçon avec la période psychose.
Et Frenzy.
Frenzy.
Oui, on retrouve
Oui, mais ce que j'allais dire, c'est qu'en gros, les faits divers criminels, jusque-là, on va prendre l'exemple de Laird Craigar chez John Braham, ils ont le physique de l'emploi.
Oui.
C'est-à-dire que Jacques l'Éventreur, ça peut être Victor Buono, ça peut être Laird Craigar, ils ont le physique de l'emploi. C'est lui qui commence avec Tony Curtis. Et l'étrangleur de Boston.
Précédent, c'est le
killer. 68.
Apprendre l'autre, donc nous. C'est-à-dire celui qui n'a pas la tête de l'emploi.
Alors qu'en plus, dans l'étrangleur de Boston, c'est très malin parce que pendant une heure, on voit des tas de gens qui auraient la tête de l'emploi, des détraqués en quelque sorte, des pervers, je mets des guillemets. Et puis arrive l'autre qui est juste plombier devant la télé. Quoi.
Et ce qui est fascinant, c'est que dans l'étrangleur de Boston, il utilise toutes les armes modernes, le split screen, tous les effets possibles. C'est-à-dire qu'il utilise la panoplie.
La couleur aussi, de manière très bariolée, très psychédélique.
De la période, exactement. Alors que dans Arlington Place, on revient presque à un huis clos de théâtre sartrien par moment.
Tout à fait, oui.
C'est-à-dire qu'on est totalement enfermé et on dirait effectivement que ce n'est pas le même metteur en scène.
Alors à l'autre bout, je dirais, du spectre criminel, la terreur non plus dans les recoins confinés d'un miteux immeuble londonien, mais au cœur de la campagne, dans une grande propriété. Là, ça n'est plus un ancien flic avec une petite blouse de concierge qui opère, mais un tueur au Santiago, terreur avant tout.
Mauvais genre, François Angelier.
Samedi. Tu es là?
Voilà, terreur aveugle, donc Richard Fleischer, Fausto Fazzullo, c'est étonnant comme les femmes qui ont des yeux immenses jouent bien les aveugles. On parlait de Michel Morgan l'autre jour, mais là aussi, Mia Farrow a quand même un grand regard qui avale littéralement le jour et la nuit, et elle joue là donc le personnage de la femme terrorisée.
Oui, puis comme le dit Nicolas Saada dans sa préface, il y a quelque chose d'assez intéressant en termes de moteur dramatique autour des personnages handicapés dans les films de genre. Il y avait effectivement Seul dans la nuit de Terence Young, il y avait Deux humains à la nuit. Il y avait un autre film aussi qui est assez peu connu qui s'appelle Une femme dans une cage. Là, c'était pas une aveugle, c'est une personne qui avait du mal à se déplacer. Là, ce qui est très intéressant avec ce film, qui par ailleurs est assez peu plébiscité dans la carrière de Richard Fleischer, c'est la façon dont il démonte un petit peu le genre et dont il nous amène sur des fausses pistes. Le film s'ouvre donc sur la devanture d'un cinéma de quartier qui projette deux films classés X, films qui n'existent pas hein, d'ailleurs. Et on suit en fait un personnage qui arpente le bitume. On se croirait vraiment sur la 42e rue. On a l'impression qu'on va avoir affaire à un thriller urbain un petit peu poisseux pendant les 5 premières minutes. Et puis on se rend compte en fait qu'il y a une famille qui attend juste devant une gare anglaise et que finalement, les 5 minutes suivantes, on est dans la campagne britannique. Donc ça, il y a un premier piège déjà pour le spectateur. Le second piège, c'est qu'on pense qu'on va vraiment avoir affaire à une espèce de huis clos nocturne où une aveugle va devoir composer avec un tueur lancé à ses trousses. En fait, pas du tout. On a affaire à un film de terreur quasiment diurne, qui n'est absolument pas un huis clos, qui est en termes de mise en scène non pas l'inverse, mais qui est quand même à l'opposé en fait de l'étrangleur de Rillington Place, qui lui était hyper confiné et très claustrophobe. Voilà. Là, on est dans une grande bâtisse anglaise, on est dans une bourgeoisie, tout ce qui est de plus classique et cliché. Et en fait, les moments finalement les plus durs du film se situent en extérieur, notamment la fuite de Mia Farrow, qui, pour contextualiser un petit peu l'histoire, est une jeune femme qui a eu un accident grave de cheval, qui a perdu la vue et qui va se reposer chez son oncle et sa tante, qui vont finir tués par un tueur extrêmement mystérieux et caractérisé uniquement ou presque par ses santiags et des bottes en cuir. Donc là aussi, c'est aussi drôle, c'est qu'habituellement dans ce type de thriller-là, on a l'habitude de voir une fétichisation des mains et des gants de cuir. Là, c'est les bottes, c'est les pieds. Donc c'est assez drôle de voir comment, avec des indices qui sont toujours extrêmement précis, puisqu'il y a un sens du détail chez Fleischer qui est vraiment estomacant, comment en fait on va nous mener par le bout du nez, tout en assistant à un pur exercice de style, puisque finalement, le scénario, par ailleurs signé Brian Clemens, qui était scénariste et producteur de Chapeau melon et bottes de cuir et de quelques hammers, le scénario est assez accessoire en fait.
Ce qui est assez... une grande déception, c'est les méchants.
Oui.
On se rend compte que l'élément fort du film, ça n'est pas, à la différence de Rillington Place,
exactement.
Sidérant du méchant, là.
L'identité du tueur est purement accessoire. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la façon dont Mia Farrow va devoir évoluer dans un territoire hostile, puisqu'elle ne peut pas le voir, vu qu'elle est aveugle.
Et c'est là où on se rend compte qu'on a un grand metteur en scène, Philippe Rouillet, c'est que quand on filme un tueur uniquement avec ses santiags, ça peut rapidement devenir un peu banal. Et là, pour montrer, je dirais, la forme d'une espèce d'obsession pathologique, il nettoie toujours l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'il frotte une de ses bottes contre l'autre, ce qui crée un sentiment de nervosité et d'obsession de propreté, qui est quand même toujours lié un peu à l'idée du serial killer.
Oui, absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on filme il a mis au point une espèce d'objectif pour pouvoir filmer comme ça, à ras du sol, de manière très, très convaincante. Et ce que j'aime, c'est les scènes de carnage, les scènes de meurtre sont toujours entre la représentation et la suggestion. C'est-à-dire que, avec cette idée de ne pas montrer, parce que ça a un intérêt de ne pas montrer le personnage au départ, c'est-à-dire que tout ce qu'on va perdre en psychologie, on va le gagner en suspense.
Voilà,
c'est-à-dire que qui est-il, quand on chope un coupable, dès l'instant qu'il a des bottes, on croit que ça peut être lui. Et il y a une histoire avec de gourmettes, etc. Et évidemment, pour un climax beaucoup plus fort. En fait, le film est directement spectaculaire. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'avec ce film, il s'essaye à un cinéma spectaculaire plus qu'un cinéma psychologique. C'est-à-dire que c'est le contraire de Rillington Place.
C'est l'anti-Rillington Place, un an ou deux plus tard.
Voilà, mais en quelque sorte, c'est le début du slasher, si vous voulez. Voilà. C'est le slasher avant l'heure. Il y a un côté, Vendredi 13 qui est tout à fait en action. Et sauf que on est du côté des victimes. Fausto l'a très bien dit. Et ça, c'est ça qui est fort, c'est que on est en empathie avec Mia Farrow.
Oui, complètement. Le début est très très humaniste. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de Richard Fleischer. C'est la façon dont il pose un regard extrêmement humaniste sur ses personnages. En revanche, c'est aussi un très grand film sadique, puisque je crois que c'est probablement l'un des rôles où Mia Farrow déguste le plus. Elle est bousculée, noyée, elle se prend une branche d'arbre à cheval, elle court dans la boue, c'est vraiment une espèce de chemin de croix, hein, pour faire référence à Barabbas.
Elle découvre les cadavres de tous ceux qu'elle aime.
Exactement, c'est vraiment un grand film sadique aussi, ouais.
Voilà, on termine cette Fleischer parade. On n'a pas, hélas, pas le temps de parler des flics de Dorne pas la nuit.
Qui est peut-être le meilleur.
Voilà, qui est peut-être le meilleur, mais c'est à ce point le meilleur qu'on lui consacrera.
Oui, disons que c'est le meilleur film tiré du plus grand écrivain policier qui a changé de genre, Joseph Wambaud.
Bah c'est 72 et ça annonce en fait toutes les séries de télé policières en fait. Freeze, man, your head is coming off. Cool it. Out of my way.
Voilà, repêché in extremis, les flics de Dom Polanyi. C'est vrai que c'est un monument. Philippe Pouillet, tiré d'un roman de James Wambo, peut-être le plus grand film de flics jamais tourné. Allons-y.
Oui, oui, c'est ça, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans le contraire d'un Dirty Harry, c'est-à-dire qu'on est avec dans des flics en uniforme et qui sont, j'allais dire, des simples flics. Enfin, pido simple flic, mais. Et justement, le film, qui est une chronique, va raconter ça, le malaise ordinaire. Donc, c'est très intéressant de le replacer dans les années 70. Donc, c'est un film de 72. Il y a ce côté très réaliste du cinéma américain de cette époque-là. Et ce qui est beau, c'est le mélange de destin extraordinaire dans un contexte totalement ordinaire. Et c'est un film où, finalement, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on commence de manière très légère avec cette idée. Sur ces Scott est très savoureux. Les putes, il doit les coffrer, mais c'est nul de les mettre. Donc, il est très mal toute la nuit, et quand elles sont bien saoules et incapables de travailler, il les relâche. Enfin, je veux dire, c'est des méthodes. Mais
c'est ce que dit Nicolas Saada dans sa excellente présentation. Il dit que ça n'est pas, il y a pas de scénario. C'est un flux d'anecdotes, c'est une chronique. Il y a des événements qui succèdent. Alors évidemment meurtriers, humoristiques. Enfin, c'est vraiment le flux un peu chronologique de l'existence d'un groupe de policiers.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec toutes ces anecdotes, finalement, on a un portrait en creux de deux flics. D'un côté, il y a George Chescott qui est le type à l'ancienne et qui a sa morale à lui. Donc, quand la loi est pas là, il impose sa propre loi et qui est assez juste. Enfin, je veux dire, mais voilà. Et puis, il y a son équipier qui est complètement confit d'admiration pour lui, qui est joué par Stacy Keach, qui lui est censé faire des études de droit, mais qui découvre ce qu'il aime, c'est la rue, les patrouilles de nuit, ce qui va lui coûter son couple. Et déjà, il y a ça. C'est-à-dire qu'on verra après des tas de flics ou des films de flics où ça se passe mal à la maison, etc. Mais c'est peut-être le premier à montrer ça de manière si complexe et si intéressante. C'est-à-dire que le personnage de l'épouse n'est pas du tout l'espèce de potiche qu'on va voir très souvent dans les films policiers. C'est un vrai personnage. Le film est totalement incroyable. C'est à la fois le film choral. Ce que je disais avant, le truc publicitaire, c'est de l'illustration musicale, c'est que ça amène toute une vision de la série policière à l'écran. Et en même temps, il y a un classicisme. On pense à ce film de Ford, Inspecteur de service, qui est peut-être le film qui se rapprocherait le plus.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, moi j'allais dire que je mettrais l'accent sur Joseph Wambo, qui était, n'oublions pas, le maître de James Ellroy, qui donc a changé le roman policier, qui a été adapté souvent. Qui a bien aimé Harold Baker l'adaptant, qui haït Robert Aldrich pour Bande de flics, parce qu'Aldrich, il ne peut pas s'empêcher de défaire ce qui a été fait, et qui avait bien aimé ce film-là. Et il y a souvent, d'ailleurs, dans les films de Wambo, adaptés de Wambo, on trouve souvent James Woods, qui est obsessionnel. Mais je trouve que ce film-là, il est effectivement le prototype de tout ce qu'a fait Boschko ensuite, mais le prototype, il crée un peu comme Blue Thunder, un genre à lui tout seul, avec des figures de style que tout le monde va reprendre. L'entrée dans le commissariat, le moment où le type doit quitter le groupe, le moment où le retraité revient. Ce sont des choses qui vont revenir tout le temps dans les séries télé, dans les films ensuite.
Voilà, on continue notre Fleischer parade avec le dernier film de ce soir, Mister Majestic. Charles Bernstein pour Mister Majestic de Richard Fleischer en vedette Charles Bronson, Jean-Pierre Dionnet.
Oui, alors j'allais dire que Mister Majestic, c'est le plus bel objet. C'est un coffret bourré de photos.
C'est un digipack
Wildside. Et c'est le scénario le plus court du monde puisque c'est Elmore Leonard qui déjà a tendance à être court. Et il a juste la saison du melon, plutôt la saison de la pastèque pour faire le film. C'est-à-dire que la pastèque est mûre. Et on doit absolument la livrer en temps. Et c'est donc l'histoire d'un livreur de pastèques ou de melons, suivant la VF ou la VO. Le livre n'a jamais été traduit en français. Et il veut donc s'occuper de ce melon. Et une bande de rednecks lui impose une bande qu'il ne veut pas. Alors il a Linda Cristal,
voilà.
La formidable comédienne d'origine sud-américaine qui a déjà abandonné le cinéma. et qui reviendra pour ce film-ci, parce que ça y est, il en a marre. Et il y a des suppléments absolument extraordinaires qui racontent bien du directeur de la photo, Richard Klein, très hétéroclite, qui dit le plus grand bien de Bronson, ce qui est rare, qui dit par exemple qu'il avait des inventions de mise en scène, comme le moment, vous verrez, où il est dans le camion et où il doit tirer sur les gens qui les poursuivent, je ne vous en dirai pas plus. Et il y a une interview, ça c'est Colorado Cool, et du même auteur, exactement, qui s'appelle Robert Fisher, il y a Colorado Chic, et là c'est Lee Powell, actrice absolument ravissante, qui est habitée à Londres et qui aime mieux faire du théâtre, et qui, la même année, va faire deux films de culte, elle n'est jamais revenue, c'est celui-là et Graffiti Party de Milius. Et elle est surtout surprise par celui-là. Elle dit, je ne pensais pas, quand on a fait ce petit film, avec pas beaucoup de moyens, on n'avait pas beaucoup de temps, qu'on m'en parlerait toute ma vie. Eh bien, c'est peut-être parce qu'il est le plus ténu du monde, peut-être parce que Bronson était quelqu'un d'assez difficile à diriger.
Plutôt.
Il a quand même commencé le tournage en disant « Ouais, si j'avais une équipe européenne, ça se passerait mieux. »
Ça détend tout de suite.
Aucun technicien n'a voulu lui parler du film. De toute façon, il ne voulait pas leur parler non plus. Hein. Je ne connais que Claude Cardinal qui lui ait pardonné son attitude pendant les films. Et c'est donc le grand Bronson, celui qui sait, comme il dira un peu plus tard, que on peut monter au sommet, mais ça ne dure pas très longtemps. Cette espèce d'autiste brillantissime qui fera peut-être trop de justicier dans la ville, mais qui après va être l'acteur fétiche de Winner, et qui, c'est un de ses plus beaux rôles parce qu'il n'est même pas un personnage secondaire. Il n'existe pas. Il veut juste vendre ses melons. Et quand on l'empêche, eh bien, il devient l'immense Bronson. D'ailleurs, il est en gros sur l'affiche. Fleischer est tout petit, c'est ça Fleischer. On dit un film de Kirk Douglas, Les Vikings. On dit un film de Charles Bronson, c'est Fleischer. On dit, comme on disait, un film de Gabin, voilà.
Mister Majestic, donc, de Richard Fleischer, avec Charles Bronson, un digipack somptueux, Blu-ray et DVD, c'est chez...
Non, c'est pas moi qui fais les textes, non. J'aurais bien aimé, mais je déclare mon amour à Al Lethierry.
On termine par une rapide préconisation de Polar, monsieur Jean-Pierre Dionnet, aux éditions Asphalt F, tout simplement. F comme Fleischer, bien sûr.
F comme Fleischer.
Non.
Oui, c'est l'histoire de la femme qui devait tuer Orson Welles.
Bah oui.
C'est un roman d'Antonio Kersneski, qui est un Argentin. Alors, selon la revue Grand A, c'est un des quatre auteurs les plus importants du monde. Parce qu'il a fait des revues, il a fait des nouvelles, il a fait beaucoup d'agitation dans son pays, l'Argentine. Il a fait un premier roman qui s'appelait Avaler du sable, qui était un western spaghetti. Et ce deuxième, eh bien, c'est une jeune fille d'Amérique du Sud qui découvre son habileté innée à tuer. Et elle se met à tuer le maximum de gens, car c'est son métier. Et un jour, on lui dit qu'elle doit tuer Orson Welles. Mais elle fait toujours très bien son travail. Elle ne sait pas qui est Orson Welles. Alors elle va aller à Paris, là, il y a des cinémathèques, pour voir tous les films d'Orson Welles. Et puis un jour, elle va être engagée par Orson Welles pour être son assistante. Et il va lui raconter sa vie. Il a l'air un peu mythomane, cet Orson Welles. Et elle va devenir amie avec Orson Welles, et évidemment, elle va le tuer. C'est là que l'histoire commence. C'est un roman terne, un peu à la Houellebecq, une écriture volontairement plate, où il se passe des choses qui sont plus proches de Chesterton que du polar ordinaire. C'est un bouquin extraordinaire, et c'est l'occasion de saluer un des éditeurs Asphalt qui fait le plus pour les écrivains sud-américains, qui sont toujours là, mais nous, on les oublie un peu.
Voilà, effectivement, un roman très étonnant, et puis, n'est-ce pas, Philippe Rouillet ?
Ah bah c'est-à-dire que c'est très renseigné sur Orson Welles, voilà. C'est ça qui est amusant, parce que bon, il y a le passage à Paris avec les critiques de cinéma parisiens qui reprennent un peu pour leur grade, mais ce qui est très intéressant, c'est quand elle devient assistante d'Orson Welles, où là, c'est tout ce moment, Other Side of the Wind, etc., des films inachevés, et où il travaille avec sa table de monteuse dans son salon, dans sa chambre, les gens, ils sympathisent avec, il les fait travailler, et donc, c'est aussi un livre sur Orson Welles.
F aux éditions Asphalt, on termine ce mauvais genre, bien évidemment, avec Christophe Beer.
Wes Craven, quelle horreur, édité par Capricci, est un essai concis, personnel et stimulant d'Emmanuel Levauffre. La carrière du cinéaste des Scream, depuis la traumatique dernière Maison sur la gauche, révèle l'évolution du cinéma horrifique américain des années 70. Pour s'intégrer au système, Craven, venu de l'exploitation new-yorkaise, a fini par s'adapter au dogme narratif hollywoodien. Bon connaisseur d'auteurs aussi expérimentaux que Joe Sarno et Jess Franco, Emmanuel Levauffre porte sa préférence au début fracassant de Craven dans l'exploitation. Celle-ci s'oppose à Hollywood. Depuis ses origines dans les années 30, le cinéma d'exploitation montre plutôt qu'il ne raconte, offense plutôt qu'il ne divertit. Les valeurs de choc, les shock values, telles que la violence et le sexe, lui importent plus que les valeurs de production, que sont les acteurs confirmés, la virtuosité technique et la sophistication du scénario. Avec un 16 mm documentaire, une lumière naturelle et une absence totale de suspense, La Dernière Maison ne veut ni surprendre, ni égarer le spectateur, mais le place frontalement devant l'horreur d'un fait divers, dénué, écrit Le Vaufre, de signification existentielle et de valeur esthétique. Inspiré de la source de Bergman, La Dernière Maison enregistre la séquestration, le viol et le massacre de deux jeunes filles par des évadés de prison qui se réfugient ensuite chez les parents d'une des victimes, lesquels comprennent qui ils sont et les exterminent salement. Craven donne le sentiment du temps réel. Il aborde l'horreur littérale, sans effets spéciaux, la nouvelle valeur de production qu'Hollywood impose depuis l'effondrement du code Hays. La violence triomphe avec Les Chiens de paille et Délivrance. Expérience euphorisante pour l'un, culpabilisante pour l'autre. Les personnages survivent au scénario, ce qui n'est pas le cas avec la violence de La Dernière Maison qui détruit tout. L'horreur y est montrée sérieusement, documentée, sans effet de surenchère. Ne pas laisser de répit, filmer l'assassinat sauvage des délinquants comme un comprimé de terreur digne d'André Delorde. Le Vaufre rapproche la brutalité du film au roman naturaliste de la fin du 19e siècle et au Grand Guignol. Il en pointe aussi l'ironie comme le symptôme d'une contre-culture nihiliste que Craven abandonnera pour l'horreur ludique de Freddy et de Scream.
Merci Christophe Bie. Rappelons également Maurice Craven, le 40e anniversaire de La Colline à des yeux avec le coffret
et
collector.
La belle édition chez ESC Collector de La Colline à des yeux, donc restauré 4K, des tas de commentaires audio, des vidéos et un livre de 200 pages de Marc Toulec.
Le Marc Toulec, très très bien
qui
fait.
Qui pour mon goût personnel est meilleur que le livre dont vous parlez, Christophe.
Le débat est ouvert en tout cas. Wes Craven, actualité en su de celle sur Fleischer. Actualité, Wes Craven, merci à toutes et à tous d'avoir suivi Le Mauvais Genre de ce soir. Je rappelle les sujets évoqués, évidemment d'abord et avant tout au premier plan, le grand Richard Fleischer avec 5 DVD sortis tout récemment. Le premier, c'est Barabbas, donc son péplum, mais ça n'est pas un péplum, aux éditions Sidonis. Formidable coffret du Fleischer du début des années 70 avec Terreur aveugle, L'étrangleur de Rillington Place et Les flics ne dorment pas la nuit, c'est chez Carlotta. Et puis Jean-Pierre en a parlé, le très étonnant Mister Majestic avec Charles Bronson. Là, c'est un digipack Blu-ray et DVD aux éditions Whiteside. Et puis à lire, donc, L'étonnant F, mais pas F comme Fleischer, F de Antonio Czernieński. Je suis prêt à faire amende honorable pour toutes les bonnes prononciations possibles. C'est un thriller donc paru aux éditions Asphalt, l'histoire de la femme qui devait tuer Orson Welles et elle y arrive, la bougresse. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Claude Niort, Claire Martin-Duguerre, Anaïs Isbert, Céline Duchesnay, Philippe Rouillet, Jean-Pierre Dionnet, Fausto Fazulo, Christophe Bire et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même motif, même punition, à 22h, mais cette fois pour la dernière émission de l'année, L'Arbre de Noël des Mauvais Enfants de Mauvais Genre. D'ici là, bien, vous restez bien évidemment à l'antenne de France Culture, car voici les métronomiques d'Amaury Chardot. Bonsoir à tous. Yes.